OK, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم donc aujourd'hui on commence le cours numéro 29 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. Et on est avec le livre d'explication, les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan de ce livre. Et c'est un livre donc qui parle de l'interdiction d'imiter les kuffars de façon générale, ou bien d'imiter les gens de l'enfer. Hein? Que c'est interdit d'imiter les gens de l'enfer. Et donc, on a expliqué au dernier cours des choses qui ont rapport avec le verset 69 dans Surat Tawbah. Puis on a descendu par la suite avec le verset 60, 70 et 71 et on a parlé de l'interprétation de ces versets. Et là on était rendu avec le verset 73. Le verset 73 dans Surat Tawbah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin wa ghluz alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir » C'est-à-dire « Ô toi prophète » Ô toi, le prophète, lutte contre les kuffars et les hypocrites de munafiqin et sois rude envers eux. Et leur destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc ça c'est les versets dont on a parlé au dernier cours. Et ensuite, donc, on avait lu les explications de Cheikh Al-Fawzan au sujet de cette catégorie-là. On a mentionné que les kuffars, le djihad contre eux, c'est avec les armes. Maintenant, qui est-ce qui est capable de me rappeler qu'est-ce qu'on avait dit au sujet des munafiqoun et comment se fait le djihad contre les munafiqoun? Avec la langue. Barakallahu fik. Eh naam, inshallah. Une bonne réponse. Tayyib. Donc le cheikh, il explique que les munafiqoun, le djihad contre eux, c'est avec la science. Et avec la langue. Et les ulama les réfutent en réfutant leurs shubuhat et en clarifiant les preuves de la vérité. Ensuite, le cheikh il dit فالحاصل أن الجهاد باللسان والقلم يعادل الجهاد بالسيف. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? C'est que le djihad avec la langue et avec la plume, c'est équivalent au djihad avec l'épée. Même que certains ulama ont dit, comme Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, il a mentionné que le djihad avec la plume et avec la langue, par les ulama, lorsqu'ils réfutent les munafiqin, il est plus élevé même que le djihad avec les armes contre les kuffars. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'ils ont dit que le djihad avec les armes, un musulman peut le faire même s'il n'est pas un savant. Et un musulman peut le faire parfois même s'il fait des péchés, même si c'est un fasiq. Hein? Tandis que le djihad par le ilm et par la science, eh bien ça c'est seulement les savants qui sont capables de le faire. Les djuhal, les musulmans qui n'ont pas de connaissances et qui ne sont pas sur la piété, ils ne peuvent pas faire ce djihad-là. Donc il dit, c'est un djihad plus particulier. L'imam Ibn Qayyim a expliqué ça. Donc Cheikh Al-Fawzan il continue, il dit فكما ان المسلمين بحاجة الى اعداد القوة والسلاح لقتال الكفار فهم كذلك بحاجة لإعداد العلماء كي يردوا على شبهات المبطلين وتوضيح أمور الدين فالمسلمون بحاجة إلى الأمرين معا القوة والعلم لأجل امتثال قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ها؟ جاهد الكفار والمنافقين ثم قال قال سبحانه واغلظ عليهم وهكذا يكون مع المعاند فالمعاند يغلظ عليه أما الجاهل فيعلم ويدعى بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي أحسن. Donc le cheikh il dit, de la même manière que les musulmans ont besoin de se préparer dans leur force, d'avoir de la force et d'avoir des armes pour être capable de combattre les kuffars, les ennemis d'Allah. Ils ont besoin de force, ils ont besoin des armes pour faire ce djihad. Et de la même manière, ils ont besoin de la science et des ulama pour réfuter les shubuhat des gens qui veulent défendre la fausseté et égarer les gens. Ils ont besoin des ulama pour clarifier pour eux les questions qui ont rapport avec la religion. Parce que les musulmans ont besoin des deux ensemble. Ils ont besoin de la force et de la science ensemble pour être capables de mettre en application la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit « Ô toi le prophète, lutte contre les kuffars et les munafiqin » et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « Et sois rude envers eux » et il dit ça c'est avec la personne qui est obstinée, al-mu'anid. Al-mu'anid, c'est qui? C'est la personne qui est obstinée. C'est-à-dire que quand tu lui expliques la vérité, tu lui donnes les preuves, mais elle veut toujours continuer à argumenter et à défendre le faux et refuse d'accepter les preuves. Cette personne, on dit qu'il est mu'anid. C'est-à-dire, elle fait preuve de inad. Et al-inad, c'est justement le fait d'être obstiné, d'être aussi en même temps arrogant et de refuser la vérité, tu vois. Donc avec cette catégorie de personnes qu'on appelle al-mu'anidun, ceux qui sont orgueilleux et arrogants et qui s'obstinent à rejeter la vérité et à rester sur le faux, eh bien il faut être rude envers cette catégorie-là, il faut être dur envers cette catégorie-là. Tandis que l'ignorant, c'est-à-dire la personne qui, elle n'a pas de connaissance, elle ne sait pas. Donc, cette personne-là, il faut l'enseigner. L'ignorant, il faut l'enseigner. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il expliquait dans un de ses livres, et même dans plusieurs livres, il le répète, que l'ignorance, elle est de deux catégories. Il y a la petite ignorance et la grande ignorance. La petite ignorance qui est l'ignorance simple. Lorsque quelqu'un ne connaît pas une chose. Donc, cette personne, tu lui dis, tu lui donnes l'information, et puis, du moment que tu lui as donné, elle sait maintenant, donc elle l'applique tout de suite. Elle dit, ah, je ne savais pas. Ah, barakallahu fik. Je suis content que tu me l'aies dit parce que j'ignorais cette chose-là. Et donc, elle l'accepte et elle l'implémente tout de suite. Mais il y a une autre catégorie qui est une forme d'ignorance. Une grande ignorance ou une ignorance plus grande. Les ulama appellent ces deux formes d'ignorance-là en arabe al-jahlul basit ou al-jahlul murakkab. Al-jahlul basit ou al-jahlul murakkab. Et al-jahlul murakkab, c'est cette grande ignorance, c'est-à-dire qu'elle est double, elle est comme superposée cette ignorance. Pourquoi? Parce que c'est comme si la personne, elle a mal appris les choses. On lui a fait apprendre les choses incorrectement. Donc pour elle, qu'est-ce qui est vrai, c'est faux. Et qu'est-ce qui est faux, c'est vrai. Parce que l'information et la connaissance qu'elle a apprise, c'est une information erronée. Sa connaissance, elle est inexacte. Et donc à cause de ça, son ignorance est murakkab. C'est beaucoup plus difficile de clarifier la vérité à quelqu'un qui est avec une grande ignorance que quelqu'un qui est avec une petite ignorance. Hein? C'est comme quelqu'un, je te donne un exemple, quelqu'un toute sa vie, on lui a appris que, par exemple, 1 plus 1 égale 3, par exemple. Lui, il a appris ça depuis qu'il était tout petit. Et toi, tu arrives, par exemple, et tu lui dis, non, 1 plus 1, ça ne fait pas 3. Alors là, il va se disputer avec toi. Il ne va pas vouloir accepter qu'est-ce que tu lui dis, parce que, pour lui, c'est une vérité. Il a toujours appris ça de cette façon. Et donc, pour arriver à être capable de lui faire accepter ce que tu dis, il faut lui prouver que ce qu'il a comme connaissance, elle est fausse. Donc, il faut détruire sa base et après reconstruire sa connaissance avec une nouvelle connaissance. Et c'est ça qui fait que parfois, c'est très difficile d'appeler quelqu'un qui est sur l'égarement ou sur une bid'a ou sur une mauvaise conception. Hein? Et donc, le cheikh, il dit ici, donc ça, c'est par exemple l'exemple de Al-Mu'anid, celui qui s'obstine et qui refuse la vérité. Contrairement à le simple ignorant, de l'ignorance ordinaire. Celui-là, tu l'appelles avec sagesse. Celui qui a une ignorance ordinaire, une ignorance simple, tu l'appelles, tu lui expliques avec sagesse, avec une bonne exhortation, et tu discutes avec lui de la meilleure façon. Tandis qu'avec la personne qui est obstinée, qui refuse la vérité, eh bien, ça ne sert à rien d'être doux avec lui. Ça ne sert à rien d'aller doucement avec lui, de faire preuve de facilité avec lui. Il refuse. Le cheikh, il dit, « وَأَمَّا الْمُعَانِدَ الَّذِي لَا يَنْفَعُ مَعَهُ التَّسَاهُلُ فَلَا بُدَّ أَنْ يُغْلَظَ عَلَيْهِ لِأَجْلِ أَنْ يُظَلُ وَيَنْكَفَّ شَرُّهُ وَلِهَذَا قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Prenez note de la fin du verset. إلا الذين ظلموا منهم. C'est bien important. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Il mentionne un autre verset. Ya ayyuha alladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min al-kuffari walyajidu fikum ghilza walyajidu fikum ghilza falghilzatu la budda minha fi ba'd al-ahyan fakama annana bihajatin ila al-lutfi wal-lini fi al-kalam wal-hikma fanahnu kadhalika bihajatin ila al-ghilzati fi ba'd al-mawatin kama qala ash-sha'ir al-mutanabbi ووضع السيف في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت الكريم تمرد. Donc il explique le cheikh que la personne qui est obstinée, ça sert à rien d'être aisé avec elle ou d'être doux avec elle. Il faut absolument être rude pour que cette personne-là s'humilie ou se cesse de faire du mal, pour qu'elle sache que ça y est, il faut qu'elle s'arrête. Et le cheikh, il mentionne comme exemple de ça le verset 46 dans Sourate Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et n'argumente pas ou ne discutez pas avec les gens du livre, excepté de la meilleure manière, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. » Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc, ceux d'entre eux qui sont injustes, c'est le mu'anidoun, ceux qui sont obstinés et arrogants et qui refusent d'accepter la vérité. Excepté ceux d'entre eux, c'est ça. Illa alladhina zalamu minhum, qui signifie excepté ceux d'entre eux qui sont injustes. Qui sont injustes. Et il y en a qui pensent, parmi les musulmans, que la sagesse, c'est de toujours être doux. Tout le temps, avec tout le monde, égal. Et ça, c'est une mauvaise compréhension de la sagesse. Parce que le mot sagesse signifie, comme les ulamas l'ont expliqué, wad'u shay fi mawdi'ihi. C'est-à-dire de mettre une chose à sa place, et là où elle va le mieux. Donc, il faut savoir quand être doux, et il faut savoir quand être dur. Et lorsque tu utilises la dureté lorsqu'il faut mettre de la douceur, ça ne marche pas. Et lorsque tu utilises de la douceur là où il faut mettre de la dureté, ça ne marche pas non plus. Donc il faut savoir quand et quand. Et ça, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il savait le faire. Il savait quand agir de telle façon avec les kuffars et les mushrikines, et quand agir de l'autre façon avec les kuffars et les mushrikines, selon le contexte, selon la situation, selon la personne, selon l'attitude, et ainsi de suite. Et naam. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, alhamdulillah, pour clarifier les questions qui ont rapport avec la douceur et la dureté, et quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de dureté, et quand est-ce qu'il faisait preuve de douceur. Il mentionne également un autre verset qui est dans Surat At-Tawbah aussi, qui est le verset 123, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui avez cru, combattez ceux qui sont proches de vous parmi les kuffars, et qu'ils trouvent en vous de la dureté, et qu'ils trouvent en vous de la dureté. » Donc le cheikh, il dit, la dureté, il faut absolument qu'on ait de la dureté parfois. Pas tout le temps. C'est pas comme certains sont tout le temps durs avec tout le monde. Ça aussi, c'est pas correct. Et il y en a d'autres, tout le temps durs. Ça me fait, ceux qui sont tout le temps durs, un peu comme les khawarij. Ça me fait penser aux khawarij. Ils sont durs avec tout le monde, tout le temps. Et les soufis sont doux avec tout le monde. Hein, tout le temps. Ça, c'est deux extrêmes. Tandis que le musulman, il doit être dans le juste milieu et savoir quand et quand. Hein? Après, donc, le cheikh, il dit donc la dureté, il faut en avoir parfois. Comme on a besoin de douceur, et de douceur dans la parole, de sagesse, on a aussi besoin de dureté dans certains contextes. Et il mentionne la poésie de Al-Mutanabbi. Je ne veux pas la traduire parce que je suis nul en poésie, surtout la poésie arabe. Donc, c'est très compliqué pour moi à traduire, donc je ne vais même pas essayer. Après, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit « ثُمَّ هَذَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابِ مِنْ مُشَابَهَةِ بَعْدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِلْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَفِي الدِّينِ وذم من يفعل ذلك دلت عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأول هذه الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع حتى ولو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون الآية وقال قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب قال فهل الناس إلا هم وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. Donc le cheikh, il explique maintenant, cheikh l'islam, il dit, puis ensuite, ce qui a été prouvé par le Coran, du fait que certains de cette umma vont ressembler à ceux des siècles précédents dans cette dunya, dans les affaires de la dunya et dans les affaires de la religion, et que Allah a blâmé cette action-là et ce geste-là de leur part, eh bien il dit, il y a également des preuves de cela dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et également les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont interprété ce verset par justement ils ont interprété ce verset selon justement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle justement de la ressemblance avec les peuples qui nous ont précédés. Vous allez voir l'exemple que le cheikh a rapporté dans le hadith. Il dit, il est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que vous allez prendre les exemples de ce qu'ont pris les peuples qui vous ont précédé, pas à pas. Hein, et il donne beaucoup d'exemples. Zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, ba'an bi ba'in. Al-zira', c'est la main. Donc, c'est comme la distance d'une main. Main, main. Hein? Et al-zira', c'est l'avant-bras jusqu'au coude. Les doigts jusqu'au coude. Donc, zira' bi zira'. Main après main. La distance d'une main. Ça suit. Et bras à bras. Et ba' bi ba'. Al-ba', c'est. Hein? C'est ça, je pense. La manche. En tout cas, c'est pour dire que vous allez les suivre pas à pas, étape par étape, petit à petit. Et jusqu'à ce que l'un d'entre eux rentre dans le trou de lézard et vous allez rentrer dedans, vous aussi, avec eux. Hein? Subhanallah. Et vous savez, le trou d'un lézard, c'est pas gros, hein? Mais c'est un exemple que le prophète m'a dit pour dire que même s'ils font n'importe quoi comme bid'a ou comme égarement ou comme chose futile ou stupide, eh bien il y a certains musulmans dans cette umma qui vont quand même essayer de les suivre dans ces choses qui sont ridicules, hein, et dans leurs égarements. Donc Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, vous pouvez lire à ce sujet si vous voulez le verset, et il mentionne le verset 69 dans Surat At-Tawbah, celui que Cheikh al-Islam explique depuis plusieurs cours. Donc c'est comme si il mentionne ce hadith, puis il dit, pour comprendre ce hadith mieux, vous pouvez lire ce verset aussi. C'est comme si le verset était une explication de ce hadith. Dans la façon dont il le mentionne ici, parce qu'il dit, il cite le verset, comme ceux qui étaient avant vous, ils étaient plus forts que vous, ils avaient plus d'enfants que vous, plus de biens et plus d'enfants que vous, hein, plus de richesses, plus d'enfants, et ils ont joui de leur part comme comme vous avez vous-même joui de votre part. فاستمتعوا بخلاقهم, ils ont joué de leur part. فاستمتعتم بخلاقكم, et vous avez joué de votre part, comme ceux qui vous ont précédé ont joui de leur part de qu'est-ce que Allah leur a donné dans la dunya, hein, en faisant des péchés, en suivant les choses haram et en suivant les shahawat. وخضتم كالذي خاضوا, et vous avez disputé dans votre religion comme ceux qui vous ont précédé avaient disputé aussi et argumenté à tort et à travers dans leur religion avec des choubouhats et ainsi de suite. Et donc, vous les avez suivis et vous leur avez ressemblé. Donc ceux-là sont ceux dont les œuvres seront annulées dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et ceux-là seront les perdants. Donc ça, c'est le verset. Ensuite, le cheikh, il dit, et ils ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que ça veut dire qu'on va faire comme ce que les Perses et les Romains ont fait, de même que les gens du livre? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu en disant, et est-ce que il y a des gens autres que eux? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre autre que eux? Est-ce que les gens sont autres que ceux-là? Et il a dit, ensuite il a mentionné une parole d'Abdullah ibn Abbas qui dit à propos de ce verset, du verset 69 dans Surat At-Tawbah, il a dit, ma ashbahu al-layla bil-bariha. Hein? C'est comme si, en voulant, c'est une expression en arabe, comme cette nuit ressemble à la nuit précédente. Comme cette nuit ressemble à la nuit précédente. En voulant dire, comme les temps se ressemblent. Hein? C'est comme si on disait, comme on dit des fois, c'est quoi l'expression que les gens disent parfois à ce sujet-là? On dirait que c'est l'histoire qui se répète. Hein? C'est dans ce sens-là. C'est comme on dirait que l'histoire qui se répète encore. Il a dit, Ibn Abbas, il dit, « Ma ashbah al-layla bil-bariha, ha'ula banu Israël. » Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, ceux qui étaient avant vous, il parle des fils d'Israël. Et, « Shubbihna bihim. » C'est-à-dire, on nous a fait ressembler à eux dans ce verset. Allah, dans ce verset, il nous fait ressembler à Banu Israël. Il blâme ceux de cette umma qui vont vouloir ressembler à Banu Israël. Hein? Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, قوله, هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية، أي أن حصول هذه المشابهة دليله من القرآن قوله تعالى الآية، يعني كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذا إخبار من الله أن من هذه الأمة من يتشبه بالأمم السابقة، وقد جاء في السنة ما يوافق كتاب الله، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تأخذ مأخذ الأمم السابقة لها ذراعا بذراع وشبرا بشبر. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من هم الذين تحصل المشابهة بهم، هل هم فارس والروم؟ فقال فمن، يعني من الروم، من القوم إلا هؤلاء. فالحاصل أن في هذه الأمة من يتشبه بالكفار خصوصا اليهود والنصارى، وعموما كالروم والفرس وسائر الملل والنحل، وهذا فيه التحذير من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، وليس المقصود الإخبار فحسب، والمراد ذم التشبه بهم في عباداتهم وأخلاقهم الذميمة. وفينا الآن من يفعل ذلك ويحث عليه ويعتبره تقدما ورقيا وحضارة وتركه رجعية وتأخر، رجعية وتأخر ونقص. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit que il résume tout ce qu'on a lu en fait, et il dit que ce que Cheikh Al-Islam il mentionne ici, c'est que yani parmi les gens yani les preuves, ce que le verset dans le Coran prouve ici, c'est que certains de cette Ummah vont vouloir ressembler à ceux qui nous ont précédés. Et ça veut dire qu'il y aura une ressemblance entre les musulmans, yani de la part des musulmans, pour les peuples qui ont vécu avant cette Ummah. Et ça s'est prouvé dans le Coran, dans le verset, dans plusieurs versets, mais dans ce verset-là en particulier, c'est-à-dire le verset 69 dans Sourate Tawbah, puis il a cité le verset qu'on a lu, puis après il a dit, et ça c'est une information de la part d'Allah, que dans cette Ummah il y en a qui vont ressembler aux peuples qui ont précédé, comme cela a été rapporté dans la Sunna. Et ce qui a été rapporté dans la Sunna à ce sujet-là est en accord avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans cette Ummah il y en a qui vont suivre pas à pas ceux qui ont précédé. Et les sahaba ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui les gens que on aura une ressemblance avec eux ou que certains d'entre nous vont suivre, est-ce que ce sont les Perses ou les Romains? Il a dit qui d'autre, c'est-à-dire qui sont les gens excepté eux, c'est-à-dire il n'y a personne d'autre que ceux-là. Et après le cheikh il dit, ça veut dire que dans cette Ummah il y en a qui vont ressembler aux kuffar en particulier parmi les juifs et les chrétiens, et de façon générale aux romains et aux perses, et à toutes les différentes religions et différentes sectes qui existent. Et ça, il y a dans ça un avertissement, une mise en garde de tomber dans ce que les nations qui nous ont précédés sont tombées, c'est-à-dire de ne pas faire la même chose qu'eux. Et le but de ça, ce n'est pas juste de nous donner l'information ou de nous raconter ça comme une histoire, mais le but c'est de blâmer le fait de ressembler ou d'imiter les koufars dans leurs traditions, dans leurs mauvais comportements. Et yani, on a, le cheikh il dit, là il parle de notre époque actuelle, cheikh Al-Fawzan, il dit, et on a aujourd'hui des gens qui font cela et qui incitent les musulmans à le faire. C'est-à-dire il y a des musulmans aujourd'hui qui imitent les koufars et qui incitent les musulmans à imiter les koufars dans tout ça, dans leurs croyances, dans leurs traditions, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de vivre, dans leur comportement, dans leur mauvais comportement, et ainsi de suite. Et ils appellent les musulmans à le faire aussi, et ils considèrent que de faire cela, c'est-à-dire de les imiter, c'est une forme de yani, comme on dit, de progrès, d'évolution, yani de civilisation, Hein? Si tu imites le kuffar, t'es moderne, t'es progressiste, t'es, hein? Tu es évolué, hein? Tu es civilisé parce que tu imites le kuffar. Mais si tu délaisses l'exemple des kuffars et que tu les imites pas, eh bien là, t'es hein, retardé, t'es rétrograde, hein, disons que t'es en retard. Comme si c'est toi qui as un problème. Donc le cheikh, il dit la vérité. Il y a des gens comme ça, vraiment, aujourd'hui, parmi les musulmans. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas suivre l'exemple de l'Occident, ou des kuffars, et de l'Europe, ou des Américains, ou quoi, dans leur façon de vivre, dans leur façon de penser, dans leur façon d'agir, et en particulier dans leur mauvaise manière, parce qu'ils ont des choses positives. Et ça, c'est pas quelque chose, comme le cheikh, il a expliqué au début. Il a dit, si ils ont des choses qui sont bénéfiques pour la Oumma, il y a des choses qui sont bénéfiques pour les musulmans, comme les développements technologiques, comme des trucs scientifiques, des choses comme ça. Ça, on a le droit de le prendre. Au contraire, même des fois, on est ordonné par Allah d'en profiter. C'est pas ça le problème. C'est tout le mal qui vient avec. Hein? Parce que les kuffars, souvent, c'est comme ça. Ils te donnent une chose positive, puis ils t'amènent 100 choses négatives avec. Puis ils te disent, si tu veux accepter cette chose positive, tu dois accepter tout le mauvais qui vient avec, sinon on ne te le donne pas. Hein? Donc c'est comme une sorte de ruse, Yanni. Et même pour corrompre leur population, leur propre population. Si tu regardes dans l'histoire moderne, quand ils ont voulu faire perdre à leur peuple, ou à leur propre peuple, leur propre population, les règles de morale qu'ils avaient des restants de religion qu'ils pratiquaient, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont remplis de développement, comme sur le plan technologique et la modernité. Ils leur ont donné plein de facilités dans la vie, puis ils leur ont enlevé toute la morale en même temps. Donc, eux, ils ont vu comme si ils ont fait un lien dans leur tête, comme si le fait d'enlever la religion, d'enlever la moralité, et l'évolution technologique et le développement, c'est comme pour eux, c'est comme dans leur esprit, c'est comme si c'était relié ensemble. Puis que tu ne peux pas avoir ce développement au plan de la technologie, au plan de la science, sans laisser de côté la religion. Et ça, c'est une ruse. Ça, c'est une ruse qu'ils ont fait. Regardez juste l'exemple, qu'est-ce qui est arrivé ici en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui est arrivé en Europe? Puis qu'est-ce qui est arrivé juste en Turquie, par exemple? Atatürk, hein, je ne sais pas si vous avez un peu lu l'histoire d'Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Subhanallah, je lisais sa biographie, tout le développement technologique qu'il a ramené, et les infrastructures qu'il a fait construire, toutes les choses qu'il a fait développer en Turquie. Quand les Turcs voyaient ça, ils voyaient ça comme une chose positive. Hein? Lui, il a fait du bien pour la Turquie. Mais en même temps, il a enlevé toutes les traces qui avaient rapport avec l'islam. Donc, d'un côté, les gens n'étaient pas contents, mais d'un autre côté, il ramenait des bonnes choses que les gens ne pouvaient pas nier. Alors, c'est comme une sorte de ruse. Je te donne un médicament par une main, puis de l'autre main, je te donne le poison. C'est ça qu'ils ont fait. Et la quantité de poison que je te donne, c'est le double de qu'est-ce que je te donne de médicaments. Et c'est une technique qu'ils ont appliquée ici au Québec et ailleurs, et partout dans le monde. Hein? Et moi, j'ai analysé ces choses-là qui se sont passées, surtout au XXe siècle, et tu vois que dans beaucoup de cas, c'est exactement cette technique-là qu'ils ont employée, pas seulement avec les musulmans, mais même avec les chrétiens. Non. Exactement. Comme le frère Hassan il dit, la Banque mondiale et toutes les autres organisations FMI ou quoi, ben, quand ils te donnent de l'argent ou te prêtent de l'argent, c'est toujours avec des conditions. Et ces conditions-là sont toujours négatives. Sont toujours des conditions qui te mettent dans des situations où tu es obligé d'accepter quelque chose qui est contraire à l'islam. Tu vois? Ils vont dire, ok, on va vous donner, vous voulez 100 millions? Ok, on va vous donner 100 millions. Mais vous devez mettre la mixité dans toutes vos écoles et prêcher ou appeler les jeunes à utiliser les préservatifs et des choses comme ça. Sinon, on ne vous donne pas d'argent. Hein? Vous devez appeler les femmes à enlever le hijab et à commencer à prendre la pilule pour pour limiter les familles. Plein de trucs comme ça, Yann. Tu vois, il y a toujours un bien, puis après, en même temps, avec, il y a une corruption qui suit. Allah musta'an. Donc, ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, « Wa amma qawluhu wa an Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma fi hadhihi al-ayah » وأما قوله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. Donc au sujet de la parole d'Abdullah ibn Abbas lorsqu'il a dit comme le temps se ressemble, c'est-à-dire comme le temps se ressemble dans le sens que ceux-là sont les fils d'Israël et on nous a fait ressembler à eux. Hein, on a été comparé à eux. Donc il dit Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, mimma warada 'an as-sahaba radiyallahu 'anhum min dhamm at-tashabbuh bil-kuffar wa at-tahdhir minhu anna ibn 'Abbas radiyallahu 'anhuma lamma qara'a hadhihi al-aya fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum qala ma ashbaha al-layla bil-bariha fanahnu shubbihna aw shabbahna Allah bi bani Israil. أدرك إلى أي حد سيكون في هذه الأمة من يشابه أعداءها في سلوكهم ونهجهم لا سيما في الخصال التي ذكرت في الآية آنفة الذكر. وابن عباس رضي الله عنهما هو ترجمان القرآن والحجة في التفسير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بقوله اللهم فقهه في الدين. Donc le cheikh il dit, il a été rapporté de la part des sahaba le blâme de la ressemblance au kuffar, hein, le blâme du fait de ressembler au kuffar et la mise en garde de ne pas leur ressembler. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsqu'il a récité ce verset 69 qu'on a lu tout à l'heure, il a dit comme le temps se ressemble, hein, comme la nuit, comme cette nuit ressemble à la précédente. Allah nous a fait ressembler aux fils d'Israël dans ce verset. Et donc ça veut dire qu'Abdullah ibn Abbas a compris à quel point cette Oumma va ressembler à ses ennemis. Il va essayer d'imiter ses ennemis dans leur comportement et dans leur conduite et dans leur voix. Et en particulier dans les caractéristiques qui ont été mentionnées dans le verset précédent, dans le verset qu'on a lu. Et donc, Cheikh Al-Fawzan dit qu'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il est turjuman al-Qur'an. C'est-à-dire qu'il est celui qui interprète le Coran. Allah lui a donné cette capacité-là et cette connaissance-là. Il dit qu'il est turjuman al-Qur'an et il est une preuve dans le tafsir. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait pour lui un dua. Il a dit, « Oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Allimhu al-ta'wil. Et al-ta'wil, c'est le tafsir, c'est-à-dire l'interprétation. Donc, le tafsir d'Abdullah ibn Abbas, c'est un des meilleurs tafsirs que tu peux trouver au sujet du Coran. Et c'est pour ça que les savants de tafsir, ils rapportent souvent les paroles d'Abdullah ibn Abbas au sujet de l'interprétation du Coran. Après il dit wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala antum ashbahu al-umam bi bani isra'il samtan wa hadyan tattabi'una 'ilmahum hadwa al-quzzati bil-quzza tattabi'una 'amalahum afwan tattabi'una 'amalahum hadwa al-quzzati bil-quzza ghayr anni la adri at'abuduna al-'ajl am la. Ça c'est grave. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, elle rapporte cette parole qui est tirée de al-Musannaf de Ibn Abi Shayba et c'est rapporté selon Ibn Mas'ud. Il dit qu'Abdullah ibn Mas'ud a dit vous êtes la nation qui ressemblait le plus à Bani Israël dans ses manières et dans son attitude, dans sa guidance, dans son attitude. Et vous allez les suivre pas à pas. Sauf que je ne sais pas, est-ce que vous allez adorer le veau ou non? Est-ce que vous allez adorer le veau ou non? C'est-à-dire que vous allez leur ressembler tellement Hein? C'est comme pas à pas vous allez les imiter, mais est-ce que vous allez jusqu'à adorer le veau ou non? Ça, je sais pas. Allah musta'an. C'est grave. Donc, c'est pour dire à quel point dans cette Oumma, il y a des gens qui vont essayer d'imiter les Juifs même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué même de la part des Hizbiyin, des gens qui, comme par exemple les gens des Ikhwan ou les gens de Hamas, ceux qui sont toujours en train de crier pour la Palestine, puis faire des manifestations, puis tout ça, c'est les gens qui imitent le plus les Juifs dans leur façon de penser, dans leur méthodologie, sur le plan même politique. Hein, ils veulent faire des partis politiques, rentrer dans les élections, rentrer dans la démocratie, rentrer dans les parlements. Ils imitent les méthodes et les techniques et les idéologies des Juifs à 100%. Subhanallah. Dans toutes leurs idées, dans tous leurs principes, dans tout leur système. Il faut faire les manifestations, les coups d'État, toutes les idées qu'ils ont, ils veulent les imiter. Puis après, ils disent, on est contre les Juifs, on est contre les Juifs. Comment tu es contre les Juifs? Tu les imites dans tout ce qu'ils font, tu as les mêmes idées qu'eux, tu penses comme eux, tout ce qu'ils ont inventé comme système d'égarement, que ce soit la démocratie, la laïcité, le socialisme, toutes ces idéologies-là, tu les défends, et après tu dis, moi je suis contre les Juifs. Et après, même certains d'entre eux, comme Al-Qardawi, comme c'est qui l'autre encore, Hassan Al-Banna, le fondateur des Ikhwan, puis Sayyid Qutb et l'autre, le récent, là, celui de Tariq Ramadan, ils disent, on n'est pas contre les Juifs pour leur croyance ou du fait qu'ils sont des koufars, mais on est contre eux juste parce qu'ils ont pris notre terre. Ça veut dire que s'ils nous redonnent notre terre, ça va être nos amis. On n'aura pas de conflit avec eux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés à l'islam. Il leur a fait da'wah. Et il les a combattus quand ils ont refusé la vérité. Donc, est-ce que c'était pour de la terre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus? Ou bien parce qu'ils ont insulté Allah, et parce qu'ils ont nié son messager, et parce qu'ils lui ont fait la guerre? Il y en a depuis qu'il est venu, et qu'ils ont renié Isa ibn Maryam, et qu'ils ont renié l'Injil que Allah a fait descendre, et ils ont traité Isa alayhi salam de toutes sortes d'insultes, et ils ont même accusé sa mère de toutes sortes de péchés, et ils ont renié le Coran, ils ont renié le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont combattu l'islam, et ils ont propagé le désordre sur la terre. Est-ce que c'est juste pour le territoire, un morceau de terre, qu'on a des problèmes avec ces gens-là? Ou bien c'est à cause de ce que Allah a mentionné à leur sujet dans le Coran et dans la Sunna? Qu'est-ce que le prophète a dit à leur sujet dans la Sunna? Donc c'est ça le problème. Que ces gens-là, ils critiquent les Juifs, mais ils sont comme eux. Et la raison pourquoi tu peux savoir qu'ils sont comme eux, c'est parce qu'ils utilisent toujours l'expression « les zionistes ». Pour quand ils veulent parler des Juifs, ils ne disent pas « les Juifs », ils disent « les zionistes ». Pourquoi? Parce que c'est juste la question de la terre qui les dérange. Et les zionistes, c'est eux qui ont pris la terre de la Palestine. Donc, les autres Juifs, eux, sont qui ne sont pas zionistes, mais qui rejettent la foi en Isa et en l'Injil et en le Coran et en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux sont corrects? Eux sont quoi? Sont des mu'minis pour Allah? Non. Donc, c'est un groupe de juifs qui se sont organisés en Europe pour trouver un endroit dans lequel les juifs pourront s'installer. Et ça, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, après qu'est-ce qu'ils appellent l'Holocauste, parce qu'ils ont dit les Juifs ont beaucoup souffert, donc il faut leur trouver un endroit où ils vont pouvoir aller s'installer. Puis ils ont pensé à plusieurs endroits, finalement ils ont décidé de prendre la Palestine, tu vois. Subhanallah. Ben, De toute façon, les Juifs, ils ont pris la Palestine maintenant, mais avant, pendant les croisades, c'était les chrétiens qui avaient pris la Palestine. Et ils sont restés en Palestine longtemps. Ils ont pris le pouvoir là-bas. Hein? Et jusqu'à ce que Salah ad-Din est venu, puis il les a assiégés, puis ils se sont rendus. Et Salah ad-Din a signé avec eux une entente de paix. Hein? Et puis il a repris la Palestine. Donc ça sert à rien d'essayer de s'énerver ou de crier ou de faire des manifestations ou de faire des attentats suicides pour essayer de reprendre la Palestine, parce que c'est pas la méthode. C'est mieux de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la sunna. Et quand tu suis cet exemple là, eh bien tu sais que inshallah tu vas avoir la victoire. Si c'est pas dans cette dunya, ben inshallah au moins tu sais que tu as la récompense d'Allah dans l'au-delà, parce que tu as suivi la bonne voie. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh, il dit, Wa'an ibn Mas'ud, donc on a dit, il a dit, je ne sais pas si vous allez adorer le veau ou non. Yushiru Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, c'est le cheikh Al-Fawzan qui dit ça, il dit, Yushiru Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, al-sahabi al-jalil, عالم الصحابة وفقيههم أن الأمة سيكون فيها من يتشبه ببني إسرائيل اليهود والنصارى ويتبعونهم في كل شيء طريقا ومسلكا وهديا وسمتا حتى لا يدعون شيئا يفعله اليهود والنصارى وخاف أن يكون في الأمة من يعبد العجل كما عبدته اليهود وللأسف فإنما توقعه حصل فلقد وجد في الأمة من يعبد القبور والأضرحة ويطوف بها ويتمسح بها ويطلب النفع ممن بها ووجد من يبني على هذه القبور المساجد ويتخذها عيدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh il dit, ce noble sahabi, Abdullah ibn Mas'ud, qui était un des savants parmi les sahaba, et un de leurs plus grands savants, un des plus grands savants de cette umma, il a dit qu'il y allait y avoir dans cette umma, dans la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des gens parmi les musulmans qui vont ressembler et qui vont imiter les fils d'Israël, al-Yahoud wa al-Nasara, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Et ils vont les suivre dans toutes choses, dans leur voie, dans leur conduite, dans leur guidance, dans leur apparence, dans tout. Jusqu'à ce qu'il n'y a rien que de ce que les Juifs et les chrétiens ont fait, qu'eux aussi ils vont le faire. Et ça c'est quelque chose que tu constates aujourd'hui. Parmi des fois les gens qui prétendent être les plus grands ennemis des Juifs, et puis tu les vois dans leur façon de vivre, ils sont exactement pareils à l'extérieur comme des juifs. Tu ne peux même pas savoir si c'est des juifs ou des musulmans, ou des chrétiens ou des musulmans. Et il dit quoi après le cheikh? Il dit, et il a eu peur que dans cet moment il y allait avoir des gens qui vont adorer le veau comme les juifs ont adoré le veau d'or. Et le cheikh il dit, et malheureusement ce que Abdullah ibn Mas'ud a eu peur, eh bien ça s'est produit. Parce que tu trouves dans cette umma des gens qui ont adoré les tombes et les tombeaux, et qui font des tours, ils circulent autour, ils font le tawaf, et ils se frottent sur les tombeaux, et ils demandent aux tombeaux de leur donner du bien, et de leur offrir du bien. Et on a même trouvé des gens qui ont construit sur les tombeaux des mosquées, et des lieux de culte, et ils vont là-bas pour prier et pour adorer. Parfois ils vont autour des tombeaux ou près de ces mosquées construites sur les tombeaux, ils vont là pour soit pour adorer Allah mais à cause de la tombe, ou bien ils vont pour adorer la tombe elle-même. Et dans le premier cas c'est un shirk asghar, et dans le deuxième cas c'est un shirk akbar. Et donc ça c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis en garde contre ça. Il avait dit dans un hadith, comme le cheikh il le dit justement, وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ
غاية التحذير ولعن من فعله وقال فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. ومع هذا وجد من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وتشبه ببني إسرائيل، وذلك لظنهم أن الكفار جديرون بأن يقلدوا، ولا سيما قد ملكوا زمام المدينة والتقدم الصناعي، وما علموا أن الرقي إنما هو عند المسلمين، رقي في دينهم وما يعتقدون من عبادة الواحد الأحد التي فيها كل رقي. فالواجب عليهم أن يعتزوا ويفخروا بدينهم وعقيدتهم، وأن لا يقلدوا ويتشبهوا بأقوام غضب الله عليهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti sa umma à l'extrême. Il les a avertis à la limite de l'avertissement. Il les a avertis le plus qu'il pouvait. Et il a maudit celui qui faisait, il a maudit ce que les juifs et les chrétiens faisaient, justement pour mettre les musulmans en garde de ce que ces gens-là avaient fait, pour pas qu'on le fasse nous aussi. Il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des mosquées ou comme des lieux de culte. Et il a mis en garde, il disait ça pour mettre en garde contre ce qu'ils avaient fait. Et malgré tout, tu trouves des gens qui ont désobéi au messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont ressemblé au fils d'Israël. Et ça, c'est de la part de qui? De la part des gens qui chantent le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jour et nuit, et qui prétendent aimer le messager d'Allah, et ils font des chansons avec son nom, et ils dansent dans les mosquées avec des tambours en chantant le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et après ils vont adorer des tombes et ils construisent sur les mosquées des tombes, comme les soufis. C'est ça que tu les trouves en train de faire, je les ai vus sur internet. Ah, subhanallah, c'est difficile. Mais il faut les appeler, ces gens-là, même si, comme ils ont traité le messager Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont traité de fou. Ouais. Exactement. Donc c'est ça qui est dangereux, parce que, tu vois, parce qu'il y a des musulmans, ils donnent pas d'importance au tawhid et à enseigner aux musulmans les fondements de l'islam. Ils parlent de toutes sortes d'autres sujets, politiques, économie, toutes sortes d'affaires, puis ils parlent des bons comportements, mais la base de l'islam, ils le négligent. Et donc, où est-ce qu'elle est la réforme, si tu veux vraiment appeler la umma à se réformer, puis à commencer à être sur la voie d'Allah et de son messager, et puis tu les laisses adorer des tombes et adorer des morts, et puis tu penses que tu veux juste corriger leur comportement ou des choses comme ça. C'est pas suffisant. Non, mais il y a une mosquée soufie à Montréal, et ils se filment dans des vidéos, tu les vois dans les vidéos en train de chanter, danser avec les tambours avec le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils prétendent qu'ils aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment tu peux aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'interdit de le faire, toi tu le fais. Puis tu dis que tu l'aimes par la suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. C'est-à-dire, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Et Allah va vous aimer. Il va vous pardonner vos péchés. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que vous aimez Allah et vous dites que vous aimez le messager sallallahu alayhi wa sallam, mais vous faites tout le contraire de ce qu'il vous a ordonné, et vous faites tout ce qu'il vous a interdit. Donc où est-ce qu'il est l'amour dans ce cas-là? Donc le cheikh il dit, on a trouvé exactement ces exemples-là. Comme le frère, il témoigne justement de ça, puis t'es pas le seul, il y a plein de gens qui nous ont mentionné ces exemples-là et qui nous ont dit même, oui, c'est vrai, on a vu ça dans notre pays quand on était petit, notre grand-mère nous amenait là, elle nous amenait là, on faisait ci, on faisait ça. Même l'autre jour, j'avais fait la khutba, je parlais du tawhid. Et il y a un frère qui était après la Jumu'ah, il est venu me voir. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as dit à propos des tombes et l'adoration des tombes et des soufis? Il dit, moi, mon père, il fait ça, exactement. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vois? Il m'a dit ça de sa propre bouche. Il m'a dit, mon père, il fait exactement ça. Mon père, il a dit, mon père, il est Tijani. Et quand on va au Maroc, on va à Fas. Et là-bas, il y a la tombe de Ahmed Tijani. Il dit, on va là-bas, puis on s'assoit devant la tombe, puis on fait ci, puis on fait ça. Il m'a décrit tout, qu'est-ce qu'il faisait. J'ai dit, subhanallah, ce n'est pas des choses qu'on parle. Moi, je me rappelle au début, quand j'étais converti, je lisais les livres sur le tawhid écrits par les ulama de la sunna, et puis je pensais qu'eux, ils mentionnaient des choses anciennes. C'est-à-dire qu'ils parlaient des siècles passés, que c'est fini, que plus personne faisait ça aujourd'hui. Mais après, plus tard, j'ai compris que non, c'est pas vrai. C'est des choses qui se passent à chaque année. Actuellement, en ce moment, pendant qu'on se parle, il y a des gens qui sont en train de faire ça. Tu vois? Allah al-Musta'an. Tu sais, comme l'autre fois, je parlais avec les frères, au Sénégal, il y a une ville qui s'appelle Touba, hein, et il y a une autre tariqa là-bas qui est la tariqa de Mouridiya, d'Ahmad Oubamba. Et lui, il est enterré là-bas dans sa mosquée, et ils font un pèlerinage. Hein, ils appellent ça le Sering Touba, hein. C'est pas ça que ça s'appelle? Sering Touba? Quelque chose comme ça? En tout cas, je sais pas, le Magal, non? C'est pas le Magal? Le grand Magal. En tout cas, ils partent là-bas. Il y en a à peu près 3 millions de pèlerins, de visiteurs qui vont dans cette ville au Sénégal à chaque année. Il y en a qui viennent même de l'Europe et qui vont là-bas. Et c'est filmé, même retransmis en direct, comme à la Mecque. C'est-à-dire comme le pèlerinage. Et comme la prière de Tarawih à la Mecque, ils le filment en direct et c'est retransmis en direct par satellite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, pour eux, c'est comme s'ils faisaient le hajj. Ils pensent que c'est comme un hajj là-bas, comme un pèlerinage. Et ils vont à la tombe de cet homme-là. Ils l'ont pris comme une divinité en dehors d'Allah. Et ils l'adorent. Hein? Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est ça qui arrive quand les gens sont ignorants. Et là-bas, c'est ça ce qui est arrivé. C'est que là-bas, ils ne vont pas regarder la personne qui parle. Est-ce qu'elle parle selon le Coran et la Sunna avec les preuves? Ils regardent juste, c'est qui est-ce qui dit? Si c'est quelqu'un qui est haut placé ou qui a un statut religieux ou qui est respecté par rapport au fait que son père ou son grand-père était un cheikh ou quoi, donc lui il est considéré un cheikh, tout ce qu'il dit c'est vrai, même si c'est contraire au Coran et à la Sunna. Ils le prennent. Et toi, même si tu viens et tu leur dis « قال الله قال رسول الله قال الصحابة » et tu leur montres les preuves, ils vont dire « Ah, toi on t'écoute pas, on écoute eux ». Eux, ils sont des descendants de je ne sais pas qui. Donc, c'est pour dire que les gens, ils suivent aveuglément, hein, les marabouts et tout. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite, le cheikh? Il dit que, yani, beaucoup de musulmans, ils pensent que les koufars, c'est eux qu'il faut suivre. En particulier, du fait qu'ils voient aujourd'hui, hein, c'est eux qui détiennent le contrôle du développement technique, hein, et qui détiennent le développement civil, tous ces développements-là et ces différentes choses-là. Ils pensent que c'est ça qui fait qu'il faut imiter les koufars et il faut les suivre. Et le cheikh, il dit, ils ne savent pas en réalité que la vraie civilisation, elle est chez les musulmans. La vraie civilisation, elle est chez les musulmans. Et c'est la civilisation de leur religion. Et l'islam, la civilisation de l'islam, c'est dans la religion de l'islam et dans les croyances de l'islam, parce qu'on adore Allah, le seul et l'unique, hein, et qu'on n'adore rien d'autre que lui. Tout ça, c'est de l'évolution, c'est de la civilisation. C'est ça la vraie civilisation, c'est ça la vraie évolution. Donc, il est obligatoire pour nous d'être fiers de notre religion et de notre aqida et de ne pas imiter et de ne pas ressembler à des peuples contre qui Allah est en colère et qui les a rendus sourds, aveugles et muets à cause de leur égarement. Donc ça, c'est ce que le cheikh a mentionné à ce sujet-là. Et donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour le cours d'aujourd'hui à ce sujet, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين